vers Philippe, Saint Joseph.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal.
Demandons à l'Esprit Saint, le Père des pauvres, d'illuminer notre cœur et notre intelligence pour nous conduire à la vérité tout entière.
Allons donc entrer dans ce domaine particulier de la qualité, ce qui n'est pas commode, ce qui est cependant très important, étant donné que sûrement que ce problème de la qualité, dans l'histoire de la philosophie, représente tout un grand courant. Alors, on voit quelques aspects, si vous voulez, au point de vue topique historique, même si on n'a pas le temps de terminer. On n'aura pas beaucoup de temps, puisqu'on arrive au terme. Les examens sont proches. Ça ne regardera pas l'examen, la qualité. Hein. Donc c'est quelque chose de la surabondance. Platon n'a pas seulement forgé le mot poiétès, ce que je vous avais dit la dernière fois. C'est intéressant que le mot poiétès semble être né à ce moment-là, ce mot poiétès de Platon. Il a élaboré toute une philosophie de la qualité, vertu, arrêté. Dans le Cratyle, il explique à sa manière la signification du mot arrêté. Alors, je prends arrêté parce que c'est la vertu arrêtée. Vous comprenez que qualité, très souvent, est identifiée avec le point de vue vertu. Un homme de qualité, c'est un homme vertueux. C'est évident. On peut compter dessus. Il a une bonne volonté, celui-là. Comme un ouvrier spécialisé sera alors du côté de l'art, vous voyez, c'est très curieux. La qualité sera du côté de l'art comme elle sera du côté de la vertu. Et arrêter, d'une certaine manière, et c'est ça qui est intéressant à voir, arrêter va être un peu entre les deux. Nous arrêter vertu, on a traduit ça en vertu. Ça n'a pas tout à fait la même saveur. Effectivement. Alors, dans le Cratyle, vous savez que le Cratyle, c'est un livre de Platon très intéressant, d'une certaine manière, parce que c'est un livre à la manière de Heidegger, n'est-ce pas ? C'est le premier Heidegger, le Cratyle. C'est de retrouver les étymologies. Alors, ceux qui aiment les étymologies, du point de vue des mots, le Cratyle, c'est palpitant, c'est extraordinaire, il y a des choses étonnantes. Ce mot signifie d'abord, parce que Platon est très très attentif aux mots, hein, plus qu'Aristote, c'est pas étonnant, philosophie plus symbolique, donc beaucoup plus attentif aux mots, à la saveur des mots. Le mot signifie d'abord l'aisance de la marche. Vous voyez, qu'est-ce que c'est que d'être vertueux ? C'est l'aisance de la marche, c'est venu de là, premièrement. Puis, le cours. Toujours libre de l'âme bonne. Donc c'est le cours toujours libre de l'âme bonne. Donc on passe de la marche à l'intériorité. Je vais essayer de saisir, hein, c'est important de saisir ce que représente ce point de départ de la qualité. Donc l'aisance de la marche. Un homme qui boite, ça ne va pas. Tandis qu'au contraire, il est presque... Il y a des ailes. Bon, on voit très bien cette chose-là. Platon aime les ailes, il ne faut pas l'oublier. C'est ce qui coule toujours, sans gêne et sans obstacle, qui a été, semble-t-il, qualifié de ce mot. Donc, vous voyez l'élan vital de Bergson. C'est un fond, la première intuition de l'élan vital. La première intuition du vivant qui a une souplesse. Le grand vivant est souple. Le petit vivant, il est gêné. Et le vieillard, il n'est plus souple. Oui, alors arrêter, c'est la qualité de celui qui se meut. Il est juste de l'appeler aei phaites, mais peut-être l'auteur veut-il dire aei rheten, préférable, pour indiquer que cette disposition existe est préférable entre toutes. La contradiction a donné le mot arrêter. C'est très curieux. L'origine de arrêter. Vous voyez, donc vous trouvez ça dans le Cratyle 415 CD. Parce que, au point de vue des qualités, nous allons voir, il y a exis, qui va jouer un rôle très important. Le mot poiétès, qui est le genre suprême, poiétès, c'est ce qui est la qualité de façon générale. Mais la qualité va se concrétiser. C'est ça qui va être très intéressant à voir. Parce que je crois que c'est la connaissance de la qualité qui nous fait comprendre la connaissance analogique. C'est-à-dire une connaissance qui se divise immédiatement en diverses espèces, selon chacune, qui ont des aspects différents. Connaître ce que c'est que la connaissance analogique doit se faire à partir de la qualité. C'est la qualité qui est à l'origine de notre connaissance analogique. Alors voyez tout de suite, vous avez le mot qualité, donc poiétès, qui est tout de suite et immédiatement se divise comme ça. Exis, c'est. Exis sera traduit en latin, virtus. Et pour saint Thomas et Aristote, exis, c'est la première qualité, donc c'est la qualité maximitanée. C'est la qualité la plus parfaite. Arrêter n'est pas la qualité la plus parfaite. Arrêter est une exis pour Aristote. Pas pour Platon, vous voyez, nous sommes là encore au début. Platon, c'est le premier moment de la philosophie de la qualité. Et ce serait très intéressant d'étudier Platon de cette manière-là, parce que là, on a réveillé Platon et Heidegger, les deux grands philosophes de la qualité. Heidegger, c'est le philosophe de la qualité, comme presque toutes les philosophies esthétiques. Parce que le propre de l'art, c'est de mettre en lumière la qualité. Un grand artiste met en lumière la qualité. Et on voit tout de suite si on est artiste ou pas, dans le sens où on a le sens de la qualité. C'est justement la différence avec le point de vue quantitatif. Un artiste, il est toujours un peu en opposition vis-à-vis de la quantité. Toujours un peu. Et il met en pleine lumière l'aspect de la qualité. Il a très peur que la quantité arrête la qualité. Il a toujours très peur de ça. Ça, il peut avoir des phobies de la quantité. Et je comprends, c'est important de voir ça dans Platon, ce premier moment d'une philosophie de la qualité. Nous voyons dans ce passage que Platon se sert du mot « exis » pour définir la vertu. Arrêter, en précisant qu'il s'agit de l'exis la plus excellente. Donc déjà chez Platon, il y a le lien entre exis. Exis est très difficile à traduire. Hein. Ici on traduit disposition. Difficile de traduire. Pour Aristote, c'est plus du tout la disposition, c'est beaucoup plus l'état. On a traduit en latin des habitus. Comme c'est difficile, hein, on comprend très bien, parce que si on saisit la qualité, c'est toujours un peu quelque chose d'ineffable. Une qualité est toujours un peu ineffable. Et l'artiste, lui, ne définira pas. Le philosophe essaie de définir. Il essaie de définir ce que c'est que la qualité. Il faut bien, comme philosophe, il essaie de donner le logos de la qualité. Et d'une certaine manière, la qualité est au-delà du logos. Ça se saisit, ça se sent, on sent une qualité. C'est difficile de l'exprimer, c'est difficile de la dire. Alors on voit très bien, vous voyez, c'est intéressant à ce point de vue-là, c'est pour ça que je dis que c'est une connaissance analogique. Parce que la connaissance analogique, c'est une connaissance justement qui est au-delà de la définition. C'est l'émergence au-delà de la définition. La qualité va être en définitive l'aspect de forme. Par la qualité, vous comprenez ce que c'est que la forme. Et vous comprendrez cette émergence de l'aspect quantitatif, de l'aspect matériel, la forme qui domine. Alors vous avez, je dis ça, c'est pour que vous compreniez au point de vue philosophique,
point de vue de la beauté du beau. Qualité forme beau.
La beauté, c'est l'aspect ultime, on le verra en philosophie de l'art, c'est pour ça qu'on peut tout de suite mettre le parallélisme entre les deux. La beauté se définira par la splendeur de la forme. Donc, le beau se rattache à la qualité. Et le bien se rattache à la qualité. Et la qualité sera le carrefour des deux. Et comme la qualité est une émergence de la quantité, au fond, tout de suite, la qualité va se donner selon des termes différents. Et c'est ça qui me semble très important à saisir. Parce qu'à l'heure-là, on saisit vraiment ce que c'est que la connaissance analogique. C'est un éclatement. Le problème de la connaissance analogique, c'est un éclatement. Vous n'êtes plus dans l'aspect générique. L'aspect générique, c'est commode, hein. Vous mettez tout le monde dans le même sac, tout le monde dans le même tiroir, c'est très très commode. Alors l'aspect générique, ça mesure, ça prend tout. Tandis que la qualité ne peut pas. Elle a quelque chose qui échappe justement à ce point de vue-là. Platon, en effet, emploie le terme « exis », et il est sans doute le premier à le faire, non seulement au sens d'avoir et de possession, mais aussi au sens de disposition de l'âme et d'état d'âme. Vous voyez, il faudrait mettre état d'âme, ce serait plus juste. Exis, ce sont des états d'âme. Voir par exemple République 4, 433, et exis désigne l'état d'âme qui est le fruit d'une action provenant elle-même de la sagesse. Et puis dans Sophiste. Oui, alors, si Platon est le premier à employer exis de cette manière-là, on peut vraiment voir, il invente le mot poietès, il est le premier à employer exis de cette manière par rapport à la vertu. On peut vraiment la découvrir, toute une piste, si vous voulez, d'un philosophe qui essaie de comprendre ce que c'est que la qualité. C'est le philosophe de la forme, c'est le philosophe de la qualité. C'est le philosophe de l'exis, c'est le philosophe de l'arrêté. Alors vous avez une dégradation intéressante à voir, puisqu'on a poiesis, la forme, c'est pas ni la forme en soi, c'est vraiment l'exaltation de la forme. Platon, c'est la forme en soi. Puis, poietès, c'est la forme particulière qui qualifie, qui ennoblit. De la qualité, on passe à l'exis, exis à arrêté. Vous avez, je crois, des paliers différents pour saisir ce que c'est que la qualité. La forme en soi, le bois, la forme en soi, ça va aller très fort avec le bois, on comprend très bien. Le bois en soi, c'est la forme dans son épanouissement plénier. Puisque c'est la beauté qui séduit, qui attire, hein, pour Platon. Regardez le banquet. C'est par la beauté que vous entrez en contact avec la bonté. Donc, c'est le beau en soi, c'est la forme en soi parfaitement elle-même. Et là, de là, c'est ça qui serait intéressant, le passage de la forme à la qualité. Vous voyez ça, la qualité prise de façon générale. Puis la qualité existe, puis la qualité arrêtée. Ceci pour nous introduire progressivement. Je crois que Platon est un philosophe qui nous introduit merveilleusement vers la qualité. Exis peut aussi exprimer chez lui la manière d'être du bien, au-delà de la science et de la vérité. La manière d'être du bien, donc c'est rattaché encore, voyez, au point de vue de la qualité. Il est évident que toute la philosophie de Platon, qui est la philosophie des formes en soi, est d'une certaine manière une philosophie de la qualité. C'est lui le premier philosophe de la qualité. Je crois qu'on peut vraiment dire ça. C'est le premier philosophe de l'âme immortelle et de la qualité. On comprend les états d'âme, exis, la noblesse de l'âme, puisque toute la philosophie de Platon, elle est prise par le point de vue de l'âme immortelle. Je crois qu'on peut ramener tout le platonisme à cette intuition de la recherche de l'âme et de l'âme immortelle. C'est vous voyez, le fruit de Socrate, au fond, connais-toi toi-même. Mais au-delà de connais-toi toi-même, connais ton âme. Qu'est-ce que c'est que l'âme? comment l'homme a en lui une âme immortelle. C'est, au fond, c'est le fondement de toutes les traditions religieuses. Toutes les traditions religieuses essaient de comprendre ce que c'est que l'âme immortelle. Et à ce point de vue-là, c'est intéressant de découvrir dans Platon, avec le point de vue de l'Inde, puisqu'on sait très bien maintenant, il en insiste beaucoup sur l'insistance et les liens qu'il peut y avoir entre Platon et l'Inde, de retrouver toute l'influence des traditions religieuses qui, par Platon, vont entrer en Grèce, par le problème de l'âme, et de l'âme immortelle. Et c'est, je crois, ce qui domine dans toute la philosophie de Platon. Alors c'est intéressant de voir comment l'âme immortelle, qui est au fond une forme en soi, va impliquer la qualité de cette âme par exis et arrêté. C'est une philosophie de l'âme immortelle, c'est une philosophie des vertus. Et parmi les vertus, on trouvera spécialement la justice et la prudence, phronesis, et la sagesse, qui est la seule science parfaite, la science des formes idéales, du bien en soi et de la vérité parfaite, et qui, d'une certaine manière, est au-delà de la science. Parce que la science épistémée, c'est la dialectique, et la sagesse est contemplative. Tandis que la dialectique n'est pas contemplative par elle-même. Donc, on retrouve toute une hiérarchie, qui est peut-être le propre de la hiérarchie platonicienne, qui reste une hiérarchie au niveau qualitatif. Cette philosophie est tout orientée vers la théoria, la contemplation. L'âme immortelle est une âme contemplative. Au-delà de l'aspect religieux, vous voyez, c'est la grandeur de Platon et aussi la parole, le lien avec l'Inde. C'est la contemplation qui domine tout chez Platon. Et c'est le propre de l'âme immortelle de contempler. Donc tout le propre de l'âme immortelle, c'est la contemplation. La contemplation qui, chez Platon, était la vie que nous avions avant d'être unis à notre corps. Cette contemplation qui donne à l'âme des ailes et qui fait que l'âme est divine, qu'elle est contemporaine avec tout le domaine des dieux. Nous étions tous, avant d'être unis à notre corps, selon Platon, en compagnie des dieux, et nous contemplions. C'est à cause d'une faute que nous sommes unis à un corps. Et donc tout l'effort du philosophe, c'est de se séparer de son corps. Parce que le corps alourdit, le corps est tombeau de l'âme. Le corps, c'est la pierre tombale. Alors il faut séparer de cette pierre tombale. La résurrection nous fait séparer de cette pierre tombale, n'est-ce pas ? Pour laisser tomber et puis avoir une âme spirituelle. Il faut redécouvrir cette âme spirituelle. C'est toute la grande spiritualité de la philosophie de Platon, qui est un type esthétique, mais profondément religieuse et profondément contemplative. Et alors, par le fait même, je crois qu'on peut dire qu'il y a tout cet aspect de la qualité. Les premières intuitions de la qualité viennent de Platon, au point de vue philosophique. C'est l'intérêt de Platon, c'est qu'il nous donne une philosophie qualitative. La philosophie d'Aristote sera la première à analyser explicitement ce qu'est la qualité. Platon, c'est l'intuitif, c'est pour ça qu'il ne forme pas, comme dit Hegel. Platon ne forme pas, mais il éveille. Donc, pour les gens qui ont besoin d'être éveillés, lisez Platon. Quand vous avez besoin d'être réveillé au point de vue philosophique. C'est très, très bon. Passage de l'Inde à la Grèce, par Platon. Et il y a quelque chose qui nous donne comme un coup de fouet. Ça, c'est bon, il ne faut jamais abandonner Platon. Il faut toujours un peu lire Platon, parce que ça nous réveille. Il ne faut pas rester uniquement à Platon. Platon ne forme pas. Vous pourriez être un spécialiste de Platon. C'est très intéressant d'écouter des spécialistes de Platon, mais ils disent beaucoup de bêtises. Parce que, de fait, ils ne voient pas, ils confondent, ils restent en intuition tout le temps. C'est très beau, c'est très noble, ça. Il y a une grandeur extraordinaire dans Platon, mais ça ne forme pas. Aristote, c'est beaucoup moins beau, mais Aristote forme, parce qu'il analyse. C'est ça, c'est le propre, hein. Notre intelligence ne peut être formée que par l'analyse, pas au moyen autrement. C'est l'analyse qui forme l'intelligence. L'analyse, vous savez, c'est divisé. Hein. Alors, il s'agit de bien diviser. Couper un poulet. Hein. N'oubliez jamais ça. Vous pouvez couper le poulet avec un sécateur. À ce moment-là, vous massacrez le poulet. Ça, c'est la dialectique. Et puis, au contraire, vous le coupez élégamment en voyant toutes les vagues. Alors, à ce moment-là, ça, c'est l'analogie. Gardez ce fantasme dans la tête pour que quand vous êtes en face de la dialectique, vous voyez le sécateur qui coupe, qui coupe. Alors au bout d'un certain temps, on ne vend plus que des ailes, on ne vend plus que des cuisses, on ne vend plus que ça, on ne vend plus que des pattes comme ça. Il y a plus ça. Le poulet a 1000 pattes. Il n'y a plus rien. Alors, ça fait le point de vue dialectique. C'est très curieux ces choses-là. Hein. Ça fait parce que le sécateur, c'est pour diviser. Uniquement divisé. Alors, ce qui se divise le mieux, c'est le divisible. C'est curieux, mais c'est comme ça. C'est ce qui se divise le mieux, c'est le divisible. Il est fait pour être divisé, le divisible. Tandis que la qualité n'est pas faite pour être divisée. Elle est faite pour être dévoilée. C'est tout à fait autre chose. C'est deux spiritualités différentes. Alors, c'est ça qui est intéressant. Alors, chez Platon, il y a la dialectique et l'émergence de la qualité. C'est très étonnant. Il y a la dialectique, c'est évident, il y a la dialectique. C'est une philosophie qu'on pourra dire aussi, le premier dialecticien, c'est Platon. C'est une dialectique très noble, parce qu'elle est finalisée par la contemplation. Donc c'est une dialectique qui ne se finalise pas dans la dialectique. Puisque l'épistémie demande, la science demande d'aller au-delà et de découvrir la sagesse. Et la sagesse est contemplative. Donc, il a saisi la dialectique comme un moment philosophique très important, mais qui ne finalise pas. Alors, Aristote, au contraire, va nous montrer une philosophie de l'analyse. Aristote est le philosophe de l'analyse et le philosophe de la contemplation. Et c'est ce qu'il y a d'intéressant dans la philosophie aristotélicienne. Donc, il est le premier à analyser explicitement le Ti esti, qu'est-ce que c'est que la qualité? C'est pas commode, hein. Vous comprenez qu'on ne peut comprendre le ti esti de la qualité que par l'analogie. Pas possible autrement. Si nous voulions traiter donc la question de la qualité chez Aristote, il faut l'examiner toujours dans cette perspective que je crois que la qualité va être pour Aristote le premier moment de la connaissance analogique. Et que de fait, nous voyons que chez Aristote, la qualité est traitée diversement dans les diverses parties de la philosophie. Et il faut bien comprendre la manière différente dont Aristote parle de la qualité dans les catégories et dans la philosophie première. Là, c'est très très net. Et c'est très intéressant à regarder, parce que ça nous aide à comprendre ce que c'est que les catégories. Et c'est peut-être par la qualité qu'on comprendra le mieux ce que c'est que les catégories. Et par la qualité, on comprendra mieux toute la différence qui existe entre les catégories et la philosophie première. Dans les catégories, une chose facile à comprendre, qui est très belle, il faut lire dans les catégories ce qu'Aristote dit sur la qualité. Peut-être pas maintenant, puisque... je n'ai plus beaucoup de temps, mais il faudra le faire. Ça. Je vous ai dit, les catégories d'Aristote, c'est un livre qu'il faut étudier attentivement. C'est très, très important. Ça joue énormément. C'est le fond. C'est le fond philosophique auquel on revient tout le temps. Aristote exprime, donc, dans les catégories, ce qu'est la qualité comme catégorie. Donc, pour savoir ce que c'est que la catégorie, il faut voir la manière dont il traite la qualité. J'appelle qualité poiotès, donc il reprend ce terme de Platon, ce en vertu de quoi on est dit poion. Merveilleuse définition du Larousse. Hein. J'appelle qualité ce en vertu de quoi on est dit qualifié. C'est vrai, ce par quoi on est qualifié, c'est la qualité. Ce par quoi on est blanc, c'est la blancheur. Avec ça, vous comprenez tout. Donc, le poyontes, c'est ce par quoi on est dit poyon. Blancheur. C'est intéressant de voir ça, parce que, vous voyez, ça n'a l'air de rien. C'est un coup de patte extraordinaire à Platon, ça. Ne cherchez pas à comprendre le poyontes. Vous n'y comprendrez jamais rien. Regardez le poyon. C'est ça que ça veut dire, vous comprenez. Et c'est ça qui est intéressant. Les catégories s'élaborent en face de Platon. Peut-être qu'on ne l'a pas assez vu. Et dès que vous voyez ça, vous voyez tout de suite. Platon, il a inventé poyotès. Et il croit que poyotès, on en a l'intuition. La qualité, mais oui, ça va de soi, la qualité. Donc on connaît la forme en soi. Aristote dit pas du tout. Vous ne connaissez aucune forme en soi. Vous connaissez des êtres déterminés. Vous connaissez des êtres tels, poyon. C'est le blanc qui me fait conduire, connaître la blancheur. Ça n'a l'air de rien, vous savez ça. Mais c'est capital quand vous voyez, quand vous comprenez que la blancheur ne peut pas se connaître par elle-même. Cherchez, vous n'aurez jamais l'intuition de la blancheur. Il faut connaître le plan du mur. Alors faites le parallèle. La liberté ne peut pas se connaître. Il faut connaître l'acte libre. Vous voyez tout de suite, là, Aristote qui nous indique la voie. Parce que si vous restez sur la qualité, vous voyez la qualité, la blancheur. C'est ce que Fermat Donnet disait, on a l'intuition de l'être quand on a 40 degrés de fièvre. Parce qu'à ce moment, on voit le blanc, la forme en soi. Une petite forme qui tourne autour de soi. Non, on ne connaît pas ce que c'est que la blancheur. Vous connaissez la blancheur par le blanc. Ça, vous en avez l'expérience. Vous connaissez la liberté par l'acte libre. C'est l'acte libre que vous devez reconnaître. Parce que là, vous avez l'expérience. Vous n'avez pas l'expérience de la liberté. Vous n'avez pas l'expérience de la blancheur. Vous n'avez pas l'expérience du poétès, de la quête. Et vous avez l'expérience d'un homme tel, qualifié. Donc vous voyez, petit coup de patte, hein, très harmonieux, qui est donné avec beaucoup d'astuces tout de suite. Orientez-vous bien pour connaître ce que c'est que la qualité. Regardez le poyon. Et par le poyon, vous connaîtrez. L'abstrait qualité est manifesté par le concret tel. Ce qui est attribué est manifesté par ce qui exerce cette attribution. N'est-ce pas la manière la plus directe de connaître la qualité? Puisque c'est la seule chose qu'on expérimente. C'est l'être qualifié. C'est l'être ennobli. C'est l'être qui, justement, a quelque chose qui lui permet d'émerger. La qualité, c'est ce par quoi on émerge. On dépasse la série quantitative. Et c'est cette émergence qui va nous aider à comprendre. Sans analyser ce dire exprimant la qualité, le philosophe ajoute aussitôt, la qualité est au nombre de ces termes qui se prennent en plusieurs sens. Tout de suite. Voilà la grande intuition d'Aristote. La qualité se prend en plusieurs sens. Legetai polakos. Elle est dite de multiples manières. Voyez l'analogie. Tout de suite. Je ne peux pas saisir ce que c'est que la qualité sans saisir la diversité des qualités. C'est étonnant, ça. Et là, on saisit ce que c'est que l'analogie. Parce qu'on voit tout de suite la diversité. C'est la diversité des qualités qui me permet de connaître ce que c'est que la qualité. Ce qui me permet de connaître l'homme qualifié, l'homme ennobli. Cette affirmation est très significative. La qualité implique immédiatement une diversité de signification. Elle ne peut s'abstraire de cette diversité, car elle est en elle-même quelque chose d'ultime. Donc je ne peux pas saisir le genre qualité. Il n'y a pas de genre. Le genre se prend toujours de la matière. Or, le propre de la qualité, c'est d'émerger de la matière. Donc, il n'y a pas de genre. Il n'y a pas de genre pour l'être. et la qualité. C'est quand même très étonnant, ça. Il n'y a pas de connaissance générique de la qualité. C'est pour ça qu'on met un prédicament, oui, on met un prédicament. On dit que la qualité est une catégorie, mais en réalité, ça fait sauter les catégories. Parce que tout de suite, c'est la diversité. La qualité en elle-même ne peut plus être formalisée ou généralisée, mais elle se présente à nous comme un fait sous une très grande diversité. Alors, la première espèce de qualité, tout de suite dans les catégories, hein, après avoir montré ça, que ne cherchez pas l'aspect générique de la qualité, acceptez que notre connaissance n'est pas uniquement générique. C'est quelque chose de très étonnant. On ne connaît pas uniquement par le genre. Normalement, selon notre conditionnement humain, on aime de connaître les choses par le genre. On les connaît génériquement, en essayant d'abstraire et de saisir ce qu'il y a de plus fondamental et premier. Le genre se prend toujours ex parte materiae, souligne saint Thomas. C'est toujours ex parte matériel. Alors, on comprend très bien que la qualité, c'est la forme. Et donc, en tant que forme, elle ne peut pas être connue ex parte matériel. Puisque c'est la matière qui est connue par la forme, et non pas la forme qui est connue par la matière. Et donc, il faut la connaître autrement. Il faut la connaître par elle-même. Ça, c'est très curieux. Donc, je ne peux plus la connaître génériquement. Ça répugne à la qualité d'être connue génériquement. Ça, il faut y réfléchir, hein, parce que c'est important de comprendre qu'il y a deux choses qui ne peuvent pas être connues génériquement. Connaître génériquement, vous voyez bien, c'est chercher la note commune. Je cherche ce qu'il y a de commun. C'est essayer de ramener tout à un dénominateur commun. C'est ça la note générique. Dès qu'on cherche ce dénominateur commun, on risque toujours de matérialiser. Alors vous ne pouvez pas connaître la qualité de cette manière-là. Ça répugne à ça. Ah, les artistes sentent ça tout de suite, immédiatement. Il n'y a rien qui les agace plus que cet aspect générique, parce que c'est matérialisé. C'est fait comprendre beaucoup de choses, ça, parce que ça fait comprendre certaines réactions violentes qu'on a devant un certain type de connaissance, qui est la connaissance par mode générique, qui est univoque. Connaître génériquement, c'est connaître univoquement. C'est donc connaître par la note commune qui rassemble des quantités d'êtres, mais les ramène à un dénominateur commun. La première espèce de qualité, pour Aristote dans les catégories, c'est l'exis et la diathesis. C'est-à-dire l'exis, ce que nous avons vu tout à l'heure, l'exis et la diathesis. Diathesis, c'est la disposition. Voilà les deux premières qualités. C'est juste l'inverse d'une connaissance générique. Il commence par regarder ce qu'il y a de plus qualitatif. Il dit première espèce de qualité, l'exis. Ça, c'est très très beau. Ça prouve que. Uniquement une petite constatation comme ça montre que les catégories, vous voyez, c'est pas banal. Hein. C'est pas un fourre-tout. Non, c'est très réfléchi. C'est pas de la philosophie au sens de l'analyse. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est quelque chose qui implique une certaine réflexion sur notre manière d'aborder le réel. Et nous abordons le réel de cette manière. L'exis a plus de durée, de stabilité que la diathesis. La diathesis, la disposition. Par exemple, les sciences, les vertus sont des exeis. Elles sont stables, difficiles à mouvoir. Alors ça, c'est la fameuse chose, le difficile mobilis. Hein. L'habitus, c'est le difficile mobilis. Mais pas du tout dans le sens hein, de quelqu'un qui est un fossile, hein, difficile à bouger. Hein. C'est juste l'inverse. Difficile à bouger, c'est-à-dire... Il a une détermination fondamentale et il est parfaitement orienté. Ça, le difficile mobilise. Tandis que la disposition, c'est la girouette. Point de vue politique, on voit très bien, ce sont des dispositions. Alors on est en, selon que ça tourne d'un sens ou de l'autre, alors on va varier. On ne peut jamais savoir si ça va continuer dans le même sens. Ça, c'est la diathésis. La diathésis, la disposition ex parte materiae. Saint Thomas dira ça. C'est curieux. Hein, disposition, c'est l'expression que prend Saint Thomas. La disposition. Alors, dans le langage de Saint Thomas, disposition et habitus. J'aime bien revenir au grec, hein, exis. Habitus, bon, très bien. Adhérer, exis aussi, il y a une notion, mais mettez exis, le sens premier, état d'âme. Mais comprenez bien, il y a des états d'âme, pas romantique. Il n'y a rien de moins romantique que l'exis. C'est classique l'exis. C'est une détermination très très nette, et c'est une détermination en vue de la finalité. Donc quand on dit état d'âme, attention, hein, traduisons état d'âme. Mais on, ça veut dire, c'est-à-dire que ça touche l'âme. Ça, c'est quelque chose qui touche l'âme. Tandis que la diathésis, c'est du côté du corps. Et la diathésis est ordonnée vers le côté du corps. C'est les dispositions. L'habitus, c'est l'âme. L'âme spirituelle. Et c'est pour ça que l'exis a comme qualité particulière d'impliquer quelque chose qui dure. La vertu est une exis. Quelque chose qui dure. Les sciences sont justement aussi des habitus. Parce que c'est quelque chose de stable. Quand on a acquis une science, c'est quelque chose qui demeure. Même s'il y a des difficultés, même s'il y a des... On ne l'oublie pas. C'est au-delà de l'oubli, vous voyez, c'est au-delà de l'oubli. Tandis que les diathésis, on peut l'oublier. Posséder des excès, donc des habitus, c'est se trouver dans une certaine disposition à leur égard, tandis qu'avoir des dispositions, ce n'est pas posséder par la même un habitus correspondant. Et donc, l'exis contient la diathésis et implique quelque chose de plus. Tandis que la diathésis ne contient pas l'exis. Donc on pourrait dire, si vous voulez, dans notre langage, pour que nous comprenions mieux, que diathésis, la disposition est présente dans l'habitus, mais c'est une disposition parfaitement déterminée, donc parfaitement orientée, tandis que la disposition qui est du côté du corps n'est pas parfaitement orientée. On dira à quelqu'un, oui, vous avez de bonnes dispositions, on verra ce que ça va donner. Tandis qu'on dira à quelqu'un, ah, vous êtes déjà déterminé. Vous savez très bien dans quel sens vous allez. Alors ça, c'est l'exis. C'est l'exis. C'est l'exis qui vient qualifier, ça vient qualifier l'âme spirituelle. Une âme spirituelle qualifiée, c'est une âme qui a ses déterminations. Tandis qu'au contraire, là, la diathésis, c'est rempli encore d'indétermination, d'hésitation, c'est pas très très bien ce que ça va donner. C'est du côté du corps. C'est pour ça que ça te voit dans la disposition qui va exparter la vie. Alors vous voyez, c'est curieux. Hein, le genre se prend ex parte materiae. Je vous disais tout à l'heure, la qualité n'est pas du côté de la matière, mais par la disposition, je suis en face de quelque chose qui est l'aspect générique des qualités. Ex parte materiae. Qui donc, c'est vraiment quelque chose de générique. La qualité comme telle n'est pas générique, mais comme de fait, les qualités existent aussi pour les corps, dans les dispositions, on peut redécouvrir à l'intérieur de la qualité quelque chose qui est semblable au genre. Et ce quelque chose qui est semblable au genre, c'est la disposition. Alors on a quelque chose de particulier. C'est peut-être par là, vous voyez, qu'on peut découvrir l'aspect générique de la qualité. Toute qualité est une disposition. Mais chaque qualité a quelque chose d'unique par rapport à la diathésis. Disposition, diathésis. Donc, premièrement, hein, l'exis et la diadésis. Aristote note ça, il l'affirme, hein, c'est une affirmation, il ne prouve pas, il constate. Parmi la manière dont on qualifie les êtres, on les qualifie de deux manières. On les qualifie d'une manière stable, on les qualifie d'une manière qui n'est pas stable. C'est le mouvement qui va déterminer les deux. Autrement dit, dans la diathésis, il y a encore une indétermination. Dans l'exis, il n'y a plus d'indétermination. On est en face d'une détermination, donc une forme parfaite. Parfaitement déterminée. La forme demande la détermination, l'exis est vraiment forme au sens très très fort, tandis que la diathésis implique une indétermination. Deuxième espèce de qualité, un autre genre, et Aristote dit un autre genre de qualité à cause de la diathésis, un autre genre de qualité est celui selon lequel on parle de bon lutteur ou de bon coureur. Autrement dit, ce genre de qualité concerne l'aptitude ou l'inaptitude naturelle à accomplir facilement quelque chose ou à ne pâtir en rien. Par exemple, le dur est tel qu'il possède une aptitude naturelle à ne pas être facilement divisé. Il résiste. Alors il a une aptitude à ça. Voilà ce que c'est que d'être dur. Hein. Pas trop s'approcher parce que il n'est pas facilement divisible. Le mou, au contraire, l'est facilement. Le mou et le dur, hein, qui montrent des qualités dans le genre physique, évidemment. C'est dans le genre physique. C'est pour ça qu'on parle de genre. C'est la diathésis. D'une certaine manière, dans la diathésis qui se prend du côté de la matière, c'est pour ça qu'on appelle le genre qualité, on va voir le dur. Et on va voir le mou. Deux tempéraments assez différents. Et ça reste la diathésis. Hein. C'est pas l'exis. C'est du côté de la matière. C'est du côté de la matière qu'on aura le doux, le dur, les granites que vous le voulez. La Bretagne, c'est ce que c'est. Hein. C'est dur. Et puis le mou, ça s'enfonce comme dans du beurre. C'est mou. Il y a une trace, mais le lendemain, la pure a tout changé. Le granit, non. Ça l'aura nettoyé. C'est pas la même chose. Il aura gardé exactement la même forme. Enfin, il aura gardé exactement la même forme. C'est dur. Ça reste bien. Dans la diathésis, on retrouvera deux formes différentes. Le dur et le mou. Une qualité. Le mou est une qualité. C'est une qualité de mollesse, que vous voulez. C'est une qualité. Alors, dans un certain domaine, on dira, mais c'est ce qu'il y a de plus proche de la matière. C'est vrai. Parce que, vous voyez, dans l'ordre de l'indétermination, le dur est plus déterminé que le mou. C'est toujours la détermination qui me permet de comprendre ce que c'est que la qualité. C'est toujours l'aspect de la forme. Or, dans le mou, pourquoi c'est mou? Pourquoi c'est mou? Parce que c'est pas très déterminé. Ça reçoit toutes les empreintes très facilement. Ça ne résiste pas. Tandis que le dur résiste. Parce qu'il est plus déterminé. Troisième genre de qualité est formé par les qualités passibiles. Ah, c'est la fameuse chose. C'est les qualités affectives. Les pathetikai poiotetes. C'est-à-dire les qualités affectives. Passibiles. En latin, on dira passibiles. C'est très difficile à traduire. Les qualités, parce que passible, on voit ce que ça veut dire. C'est très proche des passions ou les affections. Pâté. On souffre. On a pâti. Par exemple, la douceur, l'amertume, l'âcreté. Ces qualités sont les plus pures. Que ce soit là des qualités, c'est clair, dit Aristote, car les êtres qui les possèdent sont dits telles qualités, sont dits telles, en raison de leur présence, de la présence de ces qualités en eux. Vous voyez, c'est le côté plus affectif de la qualité. C'est ça, je crois. C'est le côté plus passif de la qualité. C'est pas la même chose du tout que la mollesse. C'est pas du tout la même chose qu'être mou. curieux du reste, c'est l'empreinte. On a reçu une empreinte, alors c'est la passion, l'affection, les pâtés. Ces qualités sont dites passibiles, pathéticales, parce qu'elles sont capables de produire dans les sensations des modifications. Autrement dit, elles spécifient immédiatement les sensations. La douceur est ce qui qualifie le goût, la chaleur qui qualifie le toucher, tandis que la pâleur, la rougeur sont dites qualités passibiles ou affectives, du fait qu'elles sont le résultat, l'effet d'une modification provenant d'une aptitude naturelle du tempérament. C'est beaucoup plus difficile à discerner ces qualités. Hein. Elles sont liées aux sensations. C'est des qualités qui sont liées aux sensations. C'est ce par où il y a un contact direct avec la réalité physique. Alors, c'est où ce qui est actif par rapport aux sensations, ou au contraire, ce qui est le résultat des sensations. Hein, quelqu'un qui rougit facilement, vous voyez ? C'est qualité spatibilesse. Ça, c'est il rougit, le traître. Alors, on voit très très bien. C'est la qualité spatibilesse. Il y a une empreinte. Tandis qu'au contraire, celui qui agit sur l'autre, la pivoine. C'est pas la même chose du tout, hein. C'est elle qui agit, tandis que l'autre il a pâti. Alors il y a les deux aspects, pâtir, le résultat d'une passion, et l'action sur l'autre. Mais c'est des deux côtés, c'est les qualités, hein. Et c'est les qualités sensibles. Alors la dernière espèce de qualité, la quatrième,